ghetto par le ghetto, donc les blacks avec les blacks, les beurs avec les beurs.
Je voudrais avoir des droits.
On peut pas être dans la misère et demander d'être citoyen.
La société n'appartient à personne, elle nous appartient.
Bonjour, Alternative FM vous propose Liberté, Égalité, Fraternité, le magazine d'information sociale, culturelle, économique et politique de la rédaction.
On commémorait samedi les attentats du 13 novembre 2015, où à Paris et à Saint-Denis, 130 personnes étaient assassinées et des centaines blessées par des terroristes. Une grande douleur collective, une mélancolie inédite, et de ce pessimisme que nous ordonne la raison, un optimisme reste possible par une volonté coordonnée. En arrivant sur la place Victor Hugo, celle où sont enterrés les rois de France, où le bas-peuple d'alors était réprimé s'il venait à se plaindre, aujourd'hui, devant la basilique de Saint-Denis, je trouve cet étrange cercle silencieux. 150 personnes se tiennent par la main, en arborant des banderoles. Au centre du cercle, une bougie. C'est la coordination 93 des sans-papiers qui vient de fêter ses 20 ans d'existence. Son représentant, Jean-Yves Leroy.
On organise depuis 8 ans un rassemblement pacifique, comme vous dites, donc non violent, bien sûr, qui a été créé par un franciscain à Toulouse. Ce genre d'action en silence existe depuis très longtemps, parce que ces moines, ces franciscains, ils sont allés dans des centres de rétention à Toulouse ou dans les environs. Ils ont été scandalisés par le traitement de ces personnes dans les centres de rétention avec des enfants qui étaient maltraités. Pour eux, montrer leur colère, c'était créer un cercle de silence. Plein de villes de France ont fait la même chose. Actuellement, il y en a 150. Ce qui est important, c'est que, surtout à Saint-Denis, le spécifique, c'est que les trois quarts des gens ici, ce sont tous des sans-papiers. La symbolique, c'est d'être tous ensemble, croyants, non-croyants, de toute religion, peu importe. Et cette lumière, c'est un peu un signe d'espérance.
Le cercle de silence a lieu chaque deuxième vendredi du mois de 18h30 à 19h30, place Victor Hugo, devant la mairie de Saint-Denis. D'autres actions seront organisées pour améliorer le sort de ces personnes. Prochain rendez-vous, le 18 décembre, devant la préfecture de Bobigny. Pendant ce temps, juste à deux pas de là, à l'écran de Saint-Denis, depuis 11 ans, d'autres organisent un festival, le festival Ciné-Banlieue, basé à Aubervilliers et à l'Université Paris 13 à Villetaneuse. On travaille ici à éviter d'autres 13 novembre, d'autres radicalisations. On travaille ici à former les esprits, à échapper au populisme, en ouvrant les portes du 7e art, par exemple.
Je suis Boris Spire, le directeur du cinéma L'Écran à Saint-Denis, qui accueille donc ce festival Ciné-Banlieue depuis ses débuts, puisqu'il s'est créé ici. Il n'est pas que à Saint-Denis, il se passe aussi dans d'autres villes, mais l'essentiel du festival, le cœur du festival, se passe toujours ici. C'est à l'initiative d'une jeune femme qui s'appelle Aurélie Cardin, qui est venue me proposer effectivement que ce festival se déroule à Saint-Denis. Elle avait des ambitions et puis des envies par rapport à ce festival qui correspondaient complètement à ce qu'on avait envie de défendre ici. De permettre, entre autres, pour ce festival, c'est une de ses grandes qualités, de ses grands atouts, de permettre de défricher au travers comme ça, notamment des projections de courts-métrages, de faire se rencontrer des publics avec ces œuvres-là. Et ça permet aussi évidemment de faire connaître des auteurs, des nouveaux auteurs qui viennent de la banlieue, qui viennent d'endroits dont on ne parle pas assez ou souvent de manière déformée, caricaturée, des regards de personnes issues de l'immigration, noires, arabes, qu'on voit très peu au cinéma. Et ça fait plaisir évidemment. Et c'est aussi un petit peu notre vocation ici à Saint-Denis. Dans une ville comme Saint-Denis où il y a plus de 100 nationalités qui se côtoient, qu'un festival comme celui-là permettre effectivement à ces réalisateurs de montrer leurs films.
Est-ce que le public attendu répond ?
Depuis 10 ans, oui, c'est un public qui est fidèle maintenant, puisque comme il a une dizaine d'années, il a réussi à créer un engouement. On a ouvert mercredi dernier avec le film Swagger d'Olivier Babinet, un film qui dresse le portrait comme ça de plusieurs jeunes issus d'un collège d'Aulnay-sous-Bois, un film de cinéma formidable. On a eu une super soirée où il y avait 200 personnes, donc c'était super.
Et le festival, ça apporte un autre public que le public habituel ?
C'est aussi pour ça d'ailleurs que ça donne du sens à mon travail, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. C'est vrai que les salles d'art et essai, on a plutôt tendance à drainer un public d'un certain âge, comme on dit, parce qu'effectivement c'est plutôt des gens voilà, qui sont lecteurs de Télérama, on a l'habitude de les caricaturer un petit peu comme ça, même si c'est jamais aussi simple. Enseignants, classe moyenne, couche moyenne. Alors c'est vrai, c'est une réalité objective. Retraités, il y en a aussi beaucoup. Et donc du coup, pendant ce festival, on touche aussi un autre public indéniablement de jeunes. C'est des jeunes qui sont autour de notre cinéma et qui ne viennent pas souvent. Donc on est content de les avoir dans les salles.
Alors à combien sont les places là ?
Alors les places, on a choisi une tarification unique en fait. Pour toutes les séances du festival, c'est une tarification à 4,50€ la place. Et les distributeurs jouent le jeu. Là, on a 3 avant-premières par exemple, avec des distributeurs indépendants et moins indépendants. Ça va de Gaumont à Jour de Fête. Voilà, donc Gaumont, évidemment, un très gros distributeur, un producteur de films, et puis Jour de Fête, un indépendant. Les deux jouent le jeu sans problème, ils savent que cette tarification est celle-ci, et Gaumont c'est pour le premier long métrage de Grand Corps Malade qui s'appelle Passion, qui est très beau, qui fera la clôture de ce festival, et puis Jour de Fête c'est pour le film de ce soir, Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, du coup, qui sort le 18 janvier. Donc là c'est deux avant-premières, le film de Grand Corps Malade c'est une avant-première aussi.
En tant qu'exploitant, vous, c'est quoi votre cinéma ?
Mon cinéma, c'est une salle indépendante, associative. On a 2 écrans ici et on est, comme j'ai l'habitude de le dire, on a des missions de service public du cinéma parce qu'on est une salle financée majoritairement par des deniers publics. Et à ce titre, effectivement, on essaye de remplir en tout cas ces missions qui me semblent hautement importantes aujourd'hui. Enfin, qui l'ont toujours été, mais qui le sont encore plus aujourd'hui, je trouve, dans ce monde où on est quand même abreuvé d'images tout le temps. C'est qu'on essaye déjà d'avoir des tarifications plus basses que le privé, ça c'est important pour toucher tous les publics, mais surtout on travaille beaucoup la médiation, la relation avec les autres, y compris le public qui ne vient pas trop au cinéma naturellement, pour défendre un cinéma pluriel, divers, d'auteurs, en version originale la plupart du temps, mais aussi sur des films plus familiaux. Voilà, une programmation assez équilibrée de ce point de vue-là. Et on fait de l'éducation à l'image, de l'éducation au regard, on travaille avec les scolaires, on travaille beaucoup dans les quartiers avec toutes les associations qui sont très nombreuses sur cette ville. C'est un petit peu ça la vocation d'une salle à réessai dans une ville comme Saint-Denis.
Alors j'ai vu que dans le festival, il y avait un film qui est produit par l'association Mille Visages.
On a beaucoup défendu le film Divine d'Ouda Benyamina récemment. On a d'ailleurs beaucoup travaillé avec plein de classes de lycées. On a eu des rencontres merveilleuses avec elle et des lycéens. Et tout le travail qu'elle mène avec cette association est absolument admirable et va là aussi complètement dans le sens des valeurs qu'on essaie de défendre ici, de permettre à ce public qui n'a pas forcément facilement accès au cinéma, de prendre confiance en lui, de se former et qu'on les aide à ouvrir les portes, quoi.
Aurélie Cardin, directrice du festival Ciné Banlieue.
Depuis juillet, en fait, on a reçu un grand nombre de films. Donc, il y en a un peu plus de 400 et on en a choisi 9.
Alors, j'ai vu que vous êtes pas seulement ici à l'écran à Saint-Denis, mais aussi à l'UGC 19e.
Ça nous intéressait de travailler sur les relations Paris-banlieue. Et après une édition qu'on avait appelée Paris-banlieue, je t'aime moi non plus, et qu'on avait commencé à Confluence dans le 20e, on a prospecté d'autres salles de cinéma. Et le nouvel UGC Cité Ciné Paris 19 qui vient d'ouvrir nous a ouvert grand les bras. Et donc depuis 2 ans, on est là-bas et on est très contents.
J'ai vu que vous aviez choisi un film produit par l'association Mille Visages.
Oui. Là, on a retenu Goût Bacon. Et puis de Emma Benestan, qu'on aime beaucoup, et c'est une réalisatrice qu'on avait déjà programmée avec ses premiers films. Et Mille Visages fait un travail formidable avec les jeunes de l'Essonne, de l'Île-de-France et même de la France entière. Et on suit de très près, on collabore ensemble et on est en étroite relation ensemble. Et il y a le film de Oli Fatma, Please Love Me Forever, qui est dans notre compétition cette année. Tout au long de l'année, en fait, nous, on a une scène chaque mois. On organise des rencontres professionnelles au Comedy Club avec l'association Les Amis du Comedy Club. Et on reçoit des jeunes auteurs qui pitchent leurs projets devant un parterre de producteurs pour qu'ils puissent produire leurs films et réaliser leurs rêves.
Sur scène ?
C'est ça, sur la scène du Comedy Club en matinée. C'est tout nouveau, ça existe depuis 3 ans et il y a beaucoup de films qui ont vu le jour comme ça. Il y a Maman de Maïmouna Doucouré qui a eu le Grand Prix Ciné-Banlieue l'année dernière et qui a eu aussi le prix au Festival de Sundance et le prix à Toronto et qui est là nommé au César. On va montrer le film d'un enfant de Saint-Denis qui est grand corps malade, patient. Et il y a énormément d'acteurs qui sont dans ce film, Nella Arzoun, Samir Gherab, Moussa Mansali, qui sont des acteurs super et donc on est content de montrer leur travail aussi.
Sur le thème du swag cette année, d'autres manifestations sont prévues. Jeudi 17 novembre à 18h à l'UGC Cité Ciné 19e, 9 films courts de réalisateurs issus de la diversité culturelle et sociale en présence des réalisateurs. Un masterclass le vendredi 18 avec Reda Kateb, parrain du festival, qu'on a vu notamment dans Un prophète d'Audiard et qu'on découvrira dans le prochain film de Wim Wenders. Ce vendredi, c'était le film que vous pourrez voir le 18 janvier de Dominique Cabrera, Corniche Kennedy.
Gaëlle Bessière, je suis donc la productrice de Corniche Kennedy de Dominique Cabrera. Ma société s'appelle Everybody on Deck. Voilà, et ça a été une suite de rencontres. Une rencontre d'abord avec Dominique, qui depuis longtemps rêvait de faire un film à Marseille. Elle avait lu Corniche Kennedy, qu'elle adorait, mais les droits n'étaient pas libres au moment où on s'en était parlé. Et puis elle a su que les droits étaient tombés. Et du coup, on a contacté Gallimard, on a rencontré Mélis. Et voilà, qui connaissait le travail de Dominique, qui adorait et qui était d'accord pour qu'elle fasse le film. Après, ça a été un long processus, puisque Dominique donc, est partie à Marseille pour écrire le film. Elle a rencontré des jeunes. Et les jeunes qu'elle a rencontrés, ça a été une espèce de coup de foudre amical très fort. Et en fait, sont devenus, à la fois, ils ont participé à l'écriture du scénario, et pour deux d'entre eux, sont devenus les héros du film.
Et bon, Maëlys de Kerangal, elle n'a pas participé au tournage.
Elle est venue quand on a présenté le film, puisqu'on a fait l'ouverture du FID à Marseille. Les jeunes avaient fait une représentation théâtrale. Et elle était venue et elle avait dit à Dominique, mais ils sont magnifiques, voilà, il faut qu'ils éclatent sur l'écran, c'est bien, éloigne-toi, trahis le livre. Enfin voilà, elle était vraiment très bienveillante. Pour le dossier de presse du film, elle a fait un entretien et on lui a demandé si elle trouvait que Dominique a été fidèle ou pas. Et elle a dit, la question de la fidélité, c'est pas ça qui est intéressant, mais Dominique a vraiment retranscrit l'essence du film, c'est-à-dire le côté solaire, le côté organique, la beauté des jeunes, et ça, c'est dans le film, quoi. Pour des raisons et financières et des raisons de comédien, on a été obligé de décaler, on devait tourner l'été, on a tourné en septembre-octobre, on a commencé le 14 septembre, donc avec des changements climatiques tout le temps, il fallait changer le plan de travail tout le temps, et en même temps, il se passait un truc tellement fort avec les jeunes, et tout le monde jouait le jeu, l'eau était froide, il râlait jamais... que vraiment c'est quelque chose oui, qui s'est arraché mais ensemble quoi.
Le film que vous pourrez voir le 18 janvier 2017 sur les écrans. Film où comme dans Et maintenant louons les grands hommes, ce poème ethnographique de Davis Scrub, auteur aussi de La nuit du chasseur de l'automne, elle a voulu coller à son film poème, métaphore de la jeunesse, un morceau de vraie chair.
Il y a mieux à faire que de sauter de la corniche ou bosser pour les dealers.
Où y a mieux? Où y a pas mieux? Qu'est-ce que tu connais à ma vie? Moi, je suis un plongeur. Depuis petit, je fais ça. J'aime défier la... Je sais plus comment on dit. J'aime raser la mort. Regarde-toi. Une petite policière. On dirait qu'il n'y a personne devant moi. J'ai éteinte, moi je suis allumé, moi. Je suis à fond, à 2000. On va sauter à 3. On va compter jusqu'à 3. Et à 3 on saute. D'accord? Allez. 1, 2, 3.
Thank you. décor imaginé par Mélisse de Kerangal dans le roman qui a inspiré le film de Dominique Cabrera rend les corps de Marco, Mehdi, Suzanne et les autres beaux. Plonger dans la mer comme on plonge dans la vie, avec le vertige et les risques, voilà toute la prouesse des jeunes Marseillais et de la caméra qui les accompagne dans leurs élans vitaux.
Bravo, félicitations. Le film repose quand même, Kamel et Alain, beaucoup sur vous. Si j'ai bien compris, votre premier film, tous les deux.
Bonsoir. Donc, on a rencontré Dominique Cabrera en fait, sur la corniche. Alors qu'on plongeait, moi et Alain déjà, on avait toute notre bande d'amis, tout ça, on s'amusait à plonger. Et en fait, il y a Dominique qui arrivait un peu comme Aïssa dans le film. Donc elle arrivait avec son téléphone en nous filmant. Nous, on l'a prise un peu de haut, on s'est dit, mais d'où tu sors?
Je photographiais en fait là.
Elle photographiait, on avait peur un peu, on ne voulait pas. Et en fait, elle nous a expliqué qu'elle était réalisatrice, qu'il y avait une histoire qui parlait des jeunes, de la corniche, tout ça, et qu'elle voulait adapter le roman. Et nous, on n'était pas vraiment prêts à suivre l'aventure, on ne connaissait pas tout ça, on ne savait pas quel travail il y avait à faire. Et Dominique, elle a su naturellement créer un lien entre nous et elle.
Une fois qu'on a décidé d'adapter ce roman avec Gaëlle, ma productrice qui est quelque part là-bas, voilà, je suis allée à Marseille et j'ai cherché à trouver quels étaient les lieux dans lesquels je pouvais transposer les lieux du roman, de danger progressif en fait du roman. Donc je me suis beaucoup promenée, j'ai discuté avec des tas de jeunes qui sautaient, etc. Et puis c'est vrai que ce jour-là, j'ai eu un espèce de frisson. C'est ce que Kamel raconte. Je m'avance en prenant des photos. Kamel me dit pas de photos. Alain était en train de plonger. Et je leur, à ce moment-là, je leur demande s'ils veulent bien me dîner avec moi pour m'aider, parce que je voudrais qu'ils m'aident à écrire les dialogues, en fait. Et donc, ils ne sont pas venus à notre premier rendez-vous. Hein, je dois le dire. Il n'y avait personne. Voilà. Et j'ai rappelé Kamel. Et ils sont venus au deuxième. Finalement, on a demandé à Kamel et à Alain de jouer. Et ils se sont épanouis dans le jeu.
En vrai, avant d'arriver dans ces films, avant de faire le tournage tourné chez Energy, je plongeais avant. Avant tout ça, je plongeais. Il n'y a personne qui m'a aidé. Je risquais ma vie tous les jours à chaque fois que j'allais plonger. Je plongeais de grandes hauteurs. De 20 mètres, de 22 mètres. On peut dire, voilà, j'ai montré à tout le monde que risquer sa vie, voilà, ça paye des fois un peu. Je peux vous dire, regardez, le destin, c'est qu'à l'heure de. Voilà, le jour où on était sur la corniche, que j'étais sur la corniche en train de plonger, de risquer ma vie, d'entrer, le destin, il me dit, voilà. Une réalisatrice, elle est venue, elle est passée vers là.
Mais non.
Et j'ai dit, moi, ne prends pas en photo. Je ne parle pas avec moi. Il n'y a que mon collègue qui a parlé avec elle. Et elle a pas réussi à me parler. Elle m'avait plongé, elle a pas réussi à parler. Depuis Mino, je suis dyslexique. J'ai une forte dose de dyslexique. Et voilà, j'ai réussi à retenir des textes. Voilà, j'ai appris beaucoup.
Et il y a eu un désir très fort qui nous a entraîné en fait, qui nous a entraîné à réaliser ce film et aussi à aller au bout, c'est que leur jeunesse, leur allant, leur beauté, la beauté du lieu, ça nous a porté.
Et aussi, je voulais dire un truc, hein. Le plus grand saut que vous avez vu que j'ai plongé là, j'ai failli mourir ce jour-là. Si vous savez pas où c'est à Sugiton, ça s'appelle le Torpilleur, soi-disant. Ouais, c'est le plus grand rocher des Calanques un peu de Marseille. Donc question de dire que voilà, ça fait plaisir que je sois là, je suis heureux. J'ai fini le film, j'ai un thème, je suis entier, et voilà.
Ils sont entraînés les garçons, et tout le monde d'ailleurs, Lola et les autres participants, ils sont entraînés avec un type formidable qui est Lionel Franck, qui est un champion du monde de haut vol. Et donc Lionel, qui saute de 30 mètres, a en fait sauté avant Alain. Et donc, et puis après, il était derrière lui, caché par le rocher. Je lui ai dit qu'on pourrait truquer le saut de... Parce qu'on avait filmé le saut de Lionel, Franck. Donc on pourrait truquer le saut de Lionel s'il ne voulait pas sauter.
Mais c'est impossible, ça.
Et Lionel, Franck, pourquoi il est parti ce jour-là? Parce qu'il trouvait qu'Alain sautait n'importe comment. Qu'il prenait beaucoup trop de risques. Il y avait dans le fait de sauter pour de vrai quelque chose comme la mise en jeu, comme vient de le raconter Alain, une mise en jeu de la vie. Il fallait que ce soit des vrais jeunes Marseillais qui plongent et que c'était ça qui me touchait, que je ne pourrais pas le recréer avec d'autres qui ne seraient pas Marseillais, qui ne seraient pas plongeurs. Bah, parce qu'ils étaient dans l'élan de la jeunesse, parce qu'ils étaient dans la générosité aussi peut-être de la jeunesse, ils m'ont laissé filmer un morceau de vraie chair, quoi, qui palpitait pour de vrai, en fait. Enfin, qu'est-ce qui m'a intéressé en fait, dans cette histoire de saut, de plongeon, c'est que des garçons qui étaient en échec scolaire, voilà, et dans des difficultés sociales, pouvaient, là, sur ce terrain-là, être dans une excellence.
Voilà, c'est calculé. Moi, je le fais depuis bébé, depuis minot. J'ai commencé de 1 mètre, après j'ai fait 2 mètres, après... Et petit à petit, ça va plus haut. Voilà, c'est apprendre, c'est tout.
C'est de la pensée en action, en fait. C'est une manière, pour moi, de se propulser dans le vide, tester comment ça va être de se lancer dans la vie. Et c'est pour ça que c'est beau de filmer des jeunes qui plongent. Métaphoriquement, ça raconte la jeunesse.
Pour moi, c'était plus qu'un métier, limite. Et je travaillais plus que quand je travaillais en déménagement, en tant qu'acteur, à rien foutre, que de déménager, faire un aménagement, monter des cartons, ne pas t'arrêter. C'était plus compliqué, voilà, de faire ça mentalement, ça me rendait fou, ça m'a plu. À des moments, voilà, quand il y avait fin des tournages, j'étais content, c'était la fin, je pouvais rentrer à la maison. C'était vraiment dur être acteur, voilà, il faut l'être, quoi.
En rentrant aux portes de Paris, 80 000 personnes ornées de petits drapeaux peints sur le visage sortaient du Stade de France après avoir chanté la Marseillaise avec ferveur et après avoir observé une minute de silence.
Liberté, égalité, fraternité.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui vois, c'est toi qui regarde, c'est toi qui pense, c'est toi qui agis, c'est toi qui... D'accord, ça se discute.
Tous les jours à 10h et 15h sur Alternative FM.
Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon frère ?